RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour à tous.
Le meilleur des GG en ce début d'été. Mais attention, les grandes gueules reviennent lundi prochain en direct. En attendant, aujourd'hui encore, on va réécouter tous ces moments de débat qu'on a pu avoir tout au long de la saison.
On s'est posé cette question. Êtes-vous prêt à travailler une demi-journée de plus par semaine pour relancer la croissance? On avait des personnalités également qui sont venues dans les GG. Je pense à Mac Lesgui qui était face aux GG cette année.
Et puis les recruteurs sont-ils trop sévères sur l'orthographe? Les jeunes, la nouvelle génération qui assume d'être les rois du canapé, d'être pantouflards. On réécoute tout ça. Plafonner les aides sociales à 70% du SMIC pour pousser les gens à reprendre le travail, est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous en dites? C'est au 32-16 que vous venez réagir avec les GG, avec les grandes gueules.
Ça fait longtemps à droite que l'on dit que le travail ne paye pas suffisamment par rapport aux prestations sociales. D'ailleurs, Laurent Wauquiez a longtemps dit que le problème c'est l'assistanat et qu'il faut revaloriser le travail par rapport à l'assistanat. Et donc ce que propose Bruno Retailleau, c'est de réussir déjà à regrouper toutes les prestations sociales. Alors je sais pas trop comment il compte faire parce que c'est une usine à gaz, les plafonner à 70% du SMIC, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui il serait quand même plus intéressant de travailler que de rester à la maison à toucher ses prestations sociales. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne proposition, que c'est faisable et que peut-être même aussi ça remettrait des gens au travail puisqu'il serait plus intéressant de sortir de chez soi pour aller travailler que de rester à la maison?
32-16 pour le dire au GG. Joël, t'es d'accord avec ça ou pas?
Moi, à l'heure qu'il est, je cherche des propositions qui vont permettre de me déplacer de chez moi, de mon canapé, pour me rendre dans un bureau de vote. Et quand j'ai entendu hier Bruno Retailleau, je me suis dit, ah, l'abstention, ça va être génial pour cette présidentielle, parce que ça donne pas envie, en fait. Ça donne pas envie. Je cherche un programme qui va me pousser et qui va me dire...
Le genre de mesure te donne pas envie?
Bah non, parce que ça, qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui travaille très concrètement? Si tu vas au travail, ça change quelque chose pour des gens qui bénéficient d'aide, etc.
Mais alors j'ai calculé, le SMIC actuel, c'est 1443 net par mois en France. Donc 70% du SMIC, c'est 1010 euros net par mois.
Donc si tu travailles, que tu as le SMIC, la proposition de Retailleau, ça change quoi à ton niveau de salaire? Nada. Rien du tout. Tu continues à être SMIC.
Oui, si, ça change, non. Que tu as l'impression quand même que d'aller travailler, ça rapporte plus que de ne pas travailler.
Oui, mais c'est très français. Ça change que, en fait, tu regardes ton voisin et tu dis, je suis content, il gagne moins qu'avant, c'est super. Toi, tu gagnes rien de plus. Tu continues à payer plein pot ton essence, plein pot tes taxes dans les magasins, t'es plein pot tes impôts, tu gagnes 0 euros de plus, mais t'es super content parce qu'on a enlevé 10% ou 20% à quelqu'un d'autre. Ben non, ça change pas ta vie, tu vois. Alors là, c'est bien parce que ça nourrit le ressentiment français, l'envie, la jalousie française, c'est super, le ras-le-bol aussi, que je peux comprendre.
Donc en fait, ce qui compte, c'est plutôt de valoriser le travail en augmentant le salaire.
Effectivement, voilà. Parce que quand la droite dit, on veut que le travail paye mieux, et ben il te propose absolument rien pour que le travail paye mieux. Il te propose des choses pour qu'il y ait moins d'aide sociale. C'est pas que je sois contre qu'il y ait moins d'aide sociale, c'est juste que moi je cherche à ce que le travail paye mieux, et c'est toujours pas
Charles.
Ça.
Après, le travail paiera mieux aussi s'il y a plus de gens qui travaillent, Joël. Ça fait quand même partie.
Et s'il y a moins de cotisations
de l'équation,
aussi.
S'il y a plus de gens qui vont bosser, que du coup il y a moins effectivement à charger les salaires, le travail paiera mieux. J'ai regardé le sujet. Il y a en France, on ne sait même pas combien il existe d'allocations sociales si on prend les aides nationales, les aides qui sont données par les départements, les collectivités. On est en gros à plus de 1000 allocations possibles. Moi, je pense que c'est une mesure de bon sens que propose le jeune Retailleau. Je ne crois pas qu'il y ait quand même beaucoup de configurations dans lesquelles vous pouvez, juste par vos aides sociales, dépasser le montant du SMIC. Il faut quand même être un peu un marathonien de la CAF pour y arriver, parce que c'est quand même bon. Le RSA, c'est 650 euros par mois. L'allocation adulte handicapé, c'est 1041 euros par mois qui peuvent s'ajouter de 100 ou 200 euros selon certaines conditions, mais vous n'arrivez pas au SMIC. L'allocation pour les personnes âgées seules, c'est pareil, c'est 1000 euros par mois. Donc il y a pas beaucoup. Peut-être oui, si vous cumulez APL plus ci plus ça, vous vous hissez peut-être péniblement au montant du SMIC. Mais enfin bon, voilà. Après, il y a un vrai sujet qui est que vous allez dans un autre pays que la France, dans un pays libéral, vous allez aux États-Unis, les gens, effectivement, n'ont pas ces allocations. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des petits boulots qui n'existent pas en France. Il y a plein de petits boulots aux États-Unis, de petits services qui sont rendus aux gens. Donc, pardon les caricatures, mais enfin, ils lavent les carreaux des bagnoles, ils montent les courses dans les appartements.
Non, mais ils font même de l'accueil en magasin.
Bon, voilà. Il y a plein de petits boulots qui existent aux États-Unis. Nous, ces mêmes gens-là qui, aux États-Unis font ces petits boulots, on leur donne une allocation, ils restent vissés chez eux tout seuls à regarder la télé. Qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je pense que c'est quand même mieux d'être dans la société.
Et réduire les allocs, si tu veux, ça va pousser à reprendre un boulot?
Mais ça réduit pas les allocs, en réalité. Je suis pas sûr que
ça va les plafonner.
Mais je pense, oui, que il y a pas mal de gens qui se contentent de vivoter de petites allocations ou de travailler mais qu'une partie de ou alors voilà.
Et là c'est ce que ça va faire. Moi, ça va pousser les gens à compléter avec du black quoi, en fait.
Donc ça veut dire qu'ils peuvent travailler alors et donc ils n'ont pas à toucher les prestations sociales.
En tout cas je trouve que sur le principe c'est une mesure de bon sens.
Bruno.
Moi je pourrais que plus soir que ce que dit Joël parce qu'en fait elle a tout dit quasiment. Le seul truc, c'est que moi, je pense que ça va être long, effectivement, pendant un an, parce qu'on va entendre beaucoup de mesures populistes qui n'auront ni queue ni tête. Je trouve qu'aujourd'hui, un homme politique, ce qu'il devrait faire, c'est nous expliquer comment on va pouvoir faire revenir des entreprises en France pour créer de l'emploi. Comment les entreprises qui s'en vont, à qui on a donné des milliards, pourquoi on leur demande pas de rembourser cet argent qui permettrait peut-être de créer des usines dans des endroits? On a quand même deux, trois trucs en France qui pourraient se développer, je pense, hein, tout ce qui est autour de nouvelles technologies. On a, alors après, c'est peut-être pas très écolo, mais on a une carrière de lithium dans le centre de la France qui, à mon avis, est peut-être notre avenir vu tout ce que le lithium va pouvoir à un moment donné nous apporter. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais par contre, effectivement, Retailleau, il va sur un truc où, soi-disant, 70% des aides sociales. Moi, je suis d'accord sur un seul truc, c'est que le travail paye pas assez. C'est clair. Parce que quand t'as bossé.
Bon, bah, t'es d'accord avec Retailleau, alors.
Non, ça, c'est un constat que toute la France fait. S'il y avait Retailleau qui l'avait fait, on serait heureux. Hein. Au moins, on pourrait dire que c'est un génie. Hein.
En fait, il propose quelque chose.
Oui, mais ce qu'il propose, en fait, c'est une mesure comptable. C'est juste, exactement. Je dis, tiens, voilà, il y a des chiffres, je reprends. Comme fait le Cordier en ce moment, en t'expliquant, comme il n'y a pas d'argent, je vais en chercher ailleurs. Maintenant, ça marche comme ça.
C'est vrai qu'on est endetté quand même. Et qu'on est endetté pourquoi? À cause de nos dépenses sociales.
Qui nous endettait?
Pardon, mais ce qui
nous endettait, c'est pas les gouvernements où Retailleau a participé?
Oui.
Bon, c'est pas eux qui nous donnaient le son.
Bruno, je vous comprends pas. Vous êtes les premiers à dire oui, c'est pas possible, on est surendetté, on dépend. Mais qu'est-ce qui fait la dette? C'est les dépenses sociales essentiellement. C'est pas autre chose. Donc là, si tu plafonnes, tu réduis les dépenses sociales. Et en plus, tu peux réduire le coût du travail. Parce que qu'est-ce qui plombe aussi? Pourquoi il y a moins d'industrie en France? Parce qu'on est moins concurrentiel? Parce qu'on a le coût du travail qui est trop élevé par rapport simplement à nos voisins? Si t'as moins de dépenses sociales, t'as moins de cotisations. Si t'as moins de cotisations, t'as un salaire net.
Non, mais excuse-moi, les gens qui gagnent 1 440 euros, comment on leur fait des compléments de salaire? Tu demandes au gouvernement de leur faire un chèque chauffage, un chèque carburant, je suis désolé. Si le mec il gagne assez, il n'aura pas besoin des chèques.
Il gagnera assez si t'es pas obligé de dépenser autant pour le social. Besoin de lui prélever autant d'impôts.
C'est ce que tu penses. Pour le sujet,
les dépenses sociales en France entre 700 et 800 milliards.
Je suis parti voir ce que fait le Danemark, par exemple.
Oui, mais il y a les retraites dedans.
Le Danemark qui est entre 4 et 5% de chômage. Et donc, le Danemark, lui, il a complètement, donc il a baissé les charges sur le coût du travail, donc c'est complètement baissé, d'accord?
Voilà.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis sur l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'à partir d'un euro gagné, tu payes quelque chose.
Ben oui, c'est normal.
Donc c'est la même logique que Retailleau.
C'est pas la même logique. Ils parlent des impôts locaux,
on parle
des
impôts sur le salaire. Les indemnités chômage, t'es indemnité à 90%.
Donc tu es d'accord qu'il faut, bien baisser les cotisations sociales. Donc il faut bien plafonner. C'est lié.
C'est pas ce que je te dis. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont déchargé le travail.
Bah donc s'ils ont déchargé,
c'est marrant que vous êtes très grincheux sur cette proposition de bon sens.
Alors que c'est pas du bon sens.
C'est la même logique que cette logique. Pourrait même être gravé dans la Constitution.
Oh, bien sûr.
Mais je pense, tu vois, si c'était Lisnard qui l'a proposé, Joël, tu serais en pamoison.
Pas du tout.
En train d'expliquer que c'est une mesure formidable.
Joël n'est pas sûr.
Je pense que Lisnard la propose.
Mais je suis sûr qu'il la propose aussi. Mais comme c'est Retailleau, ça te va pas.
Non, mais là,
j'aime pas son style, petite lunette, Vendée, Kawaii.
Non, mais Charles a raison.
Il n'y a pas assez de soleil chez Retailleau.
Non, mais Charles a raison. encore un truc tout à l'heure. Charles, il a eu raison, c'est sur le fait de dire qu'on ne sait même pas ce que sont que les allocs en France, en fait. C'est comme tous les chèques qu'on donne et tout, on ne sait pas. Donc à un moment donné, faisons déjà le recensement de ce qu'on donne.
C'est une mesure de bon sens.
Non, mais faisons le mesure. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand tu donnes par exemple de l'argent à des entreprises qui font des bénéfices en bourse, entre autres, je ne vois pas pourquoi on donnerait ça.
Je suis d'accord.
Et on ne leur donne pas d'argent. Elles ont il y a des niches fiscales.
Oui, on ne donne pas directement de l'impôt. Très peu.
Disons, Michelin, quand tu lui donnes de l'argent pour acheter des machines, tu donnes de l'argent.
Tu donnes pas de l'argent, c'est des crédits d'impôt.
À 97%, non, à 97%, les aides aux entreprises sont des exonérations d'impôts. L'État ne décaisse pas d'argent. Chèques, il n'y a pas de virement de l'État vers les entreprises.
Il y a des subventions vers les entreprises. Ça, c'est taxé. Oui, mais ça reste
pas avoir d'argent. Autant d'aides.
Alors attendez, parce qu'on a Véronique qui est chef d'entreprise, qui veut intervenir dans la discussion. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour.
D'accord avec Bruno Retailleau, il faut plafonner ou pas?
Oui, ça c'est sûr qu'il va falloir trouver quelque chose, parce qu'il y a quand même toute une catégorie de personnes qui n'a vraiment aucun intérêt à travailler, c'est clair. Et récemment, j'ai eu une candidate pour un petit logement qui cumulait, donc il y avait 22 ans, pas d'études, un des jumeaux et un autre enfant, donc trois enfants, et qui, avec le RSA renforcé, bon, je sais pas trop ce que c'est, les allocations familiales, les allocations parents isolés et l'aide au logement, cumulaient 2500 euros net en campagne. Plus après, vous avez les chèques énergie, la cantine gratuite, des transports gratuits, pas besoin de faire garder les enfants. Enfin bon, clairement, cette jeune femme, elle ne travaillera jamais. Elle n'a aucun intérêt à chercher un travail.
Non, mais si, elle va travailler parce que les allocations qu'elle touche pour ses enfants ne vont pas durer jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, à un moment donné, j'entends, vous avez raison, c'est choquant. Les chiffres que vous annoncez, si vous les avez vus, c'est choquant. Mais ne pensez pas que ça va durer pendant
30 ans. Comment elle retrouvera un travail à 40 ans?
Attendez, écoutez Véronique. Allez-y, Véronique.
Quand vous avez des salariés qui gagnent 1500, 1600, parfois 1800 euros et qui ont aussi deux enfants, qui se lèvent le matin, qui les font garder, exactement, qui courent toute la journée, etc. Pour moi, les héros du quotidien, c'est tous ceux qui gagnent entre 1500 et 2200 euros par mois, qui ont des enfants, qui courent partout, qui font vivre le pays. Et je peux vous dire que tous ces gens-là le vivent très mal, parce qu'ils le savent, parce que c'est leurs voisins, parce que c'est leurs cousins, etc. Et il arrive un moment où ça gronde, et nous, dans les entreprises, on a senti venir les gilets jaunes bien avant qu'ils soient dans la rue. Parce que nous, on est dans les entreprises, dans la campagne. Hein. On n'est pas à Paris, voilà.
Non, mais nous non plus, on n'est pas à Paris. On a bien vu la même chose que vous, madame. Mais
non,
moi,
non.
Attendez, allez-y, finissez, Véronique. Attends, Bruno.
Et on voit le quotidien, et on voit que ça gronde, et que les gens ne supportent plus. Et
bien là, sûr.
Vous savez
et la réponse, c'est quoi? Parce que moi, j'entends, réponse, les gilets jaunes sont sortis à 1,50 le gasoil. Aujourd'hui, on est à plus de 2 balles, il n'y a personne dans la rue.
Attendez, laissez-moi finir. Le gasoil, il est à 2 euros. Donc, les gens en campagne, ils font 40 km pour venir bosser pour gagner 1800 euros. Et en plus, depuis un an et demi, on nous a mis sur l'URSSAF, alors masqué, parce qu'avec le bulletin de salaire rétréci, on voit même plus à quoi on cotise. Mais depuis un an et demi, on nous a mis une taxe pour les gens qui travaillent en campagne pour financer les transports publics auxquels ils n'ont pas droit.
Ouais, exactement.
Et ça représente 40 euros par mois. Moi, je dis c'est 40 euros. Et ben là, dès demain, on arrête, on les donne aux salariés. Et on arrête de financer les transports, l'électrification des immeubles où personne n'achète ne consomme les bornes, etc. Là, c'est pareil, c'est une gabegie incroyable. Et on les donne aux salariés. Mais c'est vrai qu'ils n'en peuvent plus. On les rackette, ils payent le gasoil hyper cher. Et en plus, ils payent pour les transports en commun auxquels ils n'ont pas droit. Il arrive un moment...
Stop, c'est le coup de gueule de Véronique qui aura conclu notre discussion, ma chère Véronique. Ça venait de loin, ça vous fait du bien de l'avoir.
Et si vous voulez me recontacter, j'en ai des 10.
Eh ben écoutez, pourquoi pas.
Moi, j'aimerais bien que Véronique vienne parce qu'elle est grande gueule.
Alors, je peux vous dire que là, c'était pas structuré parce que je me suis arrêtée en voiture et parce que je vous écoutais.
Vous travaillez dans quel...
Mais je peux vous dire que si je vous fais un rapport, mais c'est édifiant. Édifiant.
Vous travaillez dans quel secteur?
Comment?
Quel secteur d'activité?
Dans le bâtiment.
Ma chère Véronique, merci d'avoir été avec nous. À bientôt dans les GG, j'en suis sûr. Est-ce qu'il faut plafonner à 70% du SMIC les aides, comme le dit Bruno Retailleau? Oui ou non, vous dites oui à 78%.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
c'est toi que j'aime.
Ne prends qu'un aime
par-dessus tout. Ne me dis point,
il n'en manque qu'un,
que tu t'en fous.
Je t'en Petite chanson plus de Gainsbourg, si je ne m'abuse.
En relisant ta lettre.
En relisant ta lettre, bah là, certains recruteurs, ils n'osent même plus relire les lettres tellement elles sont bourrées de fautes d'orthographe. Du coup, ça devient éliminatoire pour avoir un travail. Alors, est-ce que c'est trop sévère ou pas? 32-16 pour le dire au GG.
À CV égal, celui qui contient des fautes d'orthographe a deux fois plus de risques d'être écarté. Il y a une spécialiste qui expliquait dans Le Monde, il y a quelques mois, que maîtriser l'orthographe et la grammaire, c'est montrer aux recruteurs qu'on a bien les codes sociaux qu'exige l'emploi pour lequel on postule. Et c'est vrai que les recruteurs estiment qu'un CV, une lettre de motivation avec des fautes d'orthographe, bah, ça traduit un manque de rigueur, de la légèreté, de la négligence. Ça veut dire que professionnellement, c'est quelqu'un qui ne saura pas être rigoureux. Et ça va même plus loin. Certains recruteurs pensent que des fautes d'orthographe, c'est aussi synonyme d'un manque d'intelligence et de compétences, donc une incapacité à tenir un poste. Est-ce que ces recruteurs ont raison ou est-ce qu'ils passent à côté peut-être de talents qui certes ne sont pas bons en orthographe mais qui ont d'autres compétences?
Toi qui recrutes?
Moi, je recrute pas en ce moment parce que l'état du marché le permet pas malheureusement. Mais par contre,
un CV trouvé de faute, on fait quoi?
Hors de question. C'est-à-dire que, bah alors après moi, c'est un métier dans lequel on écrit beaucoup, donc particulièrement hors de question. Mais même dans l'absolu, je trouve que c'est un manque de motivation parce que, en fait, même si vous faites des fautes, que vous ayez pas quelqu'un à qui demander une relecture, voire l'IA, parce qu'aujourd'hui, ben, en fait, vous mettez votre texte dans ChatGPT, enfin bon, dans une IA, vous avez un texte corrigé. C'est un manque de motivation. C'est j'ai écrit un mail à la va-vite. Soit vous vous relisez tout seul, soit vous vous faites relire.
Donc t'as dit quelque chose de la personnalité de la personne.
Je trouve et je trouve que pour le coup, s'il y a un endroit sur lequel je suis conservatrice, c'est sur l'orthographe, parce qu'en fait, à un moment, il faut respecter notre langue, et voilà, et c'est important.
C'est rédhibitoire et éliminatoire pour toi.
Dans les métiers, parce qu'on a besoin de beaucoup d'écrits, on écrit beaucoup à des clients, etc. Ce qui est intéressant aussi dans cet article, c'est que aujourd'hui, le chômage monte, et on a tendance à pas trop le dire. Je sais pas pourquoi. C'est comme la crise économique. On est en crise économique, mais on en parle pas trop.
C'est vrai.
Le chômage monte, on en parle pas trop, et donc qui dit chômage qui monte dit recruteur plus exigeant. Ça veut dire que le rapport de force est en train de changer. Et donc, les recrutés qui se permettaient beaucoup d'exigences, malheureusement, vont devoir revoir à la baisse leurs exigences.
Charles, quand tu recrutes un collaborateur, est-ce que l'orthographe, c'est un critère important?
C'est majeur, mais moi, je ne recrute que des majors de promotion qui n'ont aucun problème en orthographe. Non, mais c'est pour de vrai. Si je dois recruter quelqu'un, on a à Paris deux collaborateurs, je m'assure d'avoir vraiment un niveau parfait parce que j'ai besoin qu'ils puissent écrire des courriers qu'on envoie à des juges, à des clients, à des confrères, sans forcément que je repasse dessus. Donc il faut que ce soit parfait. Mais moi j'ai eu le problème avec des stagiaires que je prenais, pas forcément pour mon cabinet, mais pour d'autres activités médiatiques, etc., très compétents sur la technique, par exemple pour la vidéo, pour ce genre de choses. Et il y avait des fautes d'orthographe sur certains textes. C'est très handicapant, c'est un vrai problème. Et on s'arrache les cheveux parce qu'on se dit, mais c'est dommage.
Cécile Duflot a dit sur RMC, l'orthographe n'est pas une religion.
Oui, mais forcément, quand on veut le monde...
C'est ce qu'elle a dit.
Que souhaite Cécile Duflot.
Il faut arrêter
Duflot.
Les psychopathes de l'orthographe.
Oui. Elle a mis ses enfants Henri IV, donc visiblement, quand même, l'orthographe, c'est important.
Et puis, elle a une fille qui s'appelle Térébenthine, donc il faut quand même savoir écrire son prénom, mais... c'est pas facile, faut être calé en orthographe. Moi, je suis pour le retour de la dictée.
Ah oui.
Je pense que d'ailleurs, je crois que notre excellent ministre de l'Éducation, Monsieur Geffray, a institué. Je crois qu'il est en pointe sur ce retour de la dictée. Oui. Je pense qu'il faut faire revenir la dictée quotidienne à l'école primaire.
Moi, je l'avais.
Ben oui, mais c'est très bien. Mais c'est comme ça qu'après on ne fait pas de faute d'orthographe et qu'on n'est pas handicapé dans la vie.
Ça n'existe plus la dictée.
Beaucoup moins.
Il y a des enfants en primaire.
Beaucoup moins. Plus personne ne fait d'enfants. C'était la seule qui a fait des enfants récemment.
Bruno Poncet.
Moi, je trouve que, en plus, on a intérêt à s'inquiéter parce que les futures générations qui arrivent, c'est l'écriture, ça va faire flipper. C'est le que, c'est KE, c'est VON, c'est VON. En fait, tu vois, il va falloir revenir en arrière, ça va être compliqué.
Après, très, très compliqué. Les jeunes que
que je côtoie dans mon entourage, ils font la part des choses entre une écriture, effectivement, entre eux sur par SMS, etc., ou sur leur groupe WhatsApp, et l'écriture qu'ils vont. Enfin, j'espère qu'ils font ces différences et l'écriture qu'ils doivent avoir lorsqu'ils
ont. Non, mais après, on n'a pas tous la chance d'avoir eu une éducation longtemps, et on n'a pas tous la chance d'avoir aussi des parents.
C'est le primaire. Hein.
Oui, mais c'est en fait, l'école ne suffit pas.
Tout le monde va à l'école primaire.
Alors, juste, je termine ma phrase. Si tu as des parents qui, par exemple, ne sont pas français et donc ne peuvent pas corriger tes dictées le soir et t'aider à progresser, c'est beaucoup plus difficile. Sauf que, coup de chance, cette inégalité, aujourd'hui, elle est quand même atténuée par l'intelligence artificielle et Internet, qui est que vous pouvez faire relire une lettre de motivation à ChatGPT. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça pallie quand même à cette grande inégalité.
À l'école, pendant longtemps, ça n'a plus été une exigence. C'est-à-dire que tu pouvais rendre une copie, moi j'ai été témoin de ça, au primaire, truffé de fautes d'orthographe, mais tu avais quand même une bonne note parce que ce qui comptait, c'est ce que tu voulais dire. C'est l'intention que tu mettais dans tes propos. Et oui, mais ça a été ça. Il y a eu du laxisme. Et là, on est un peu en train de revenir en arrière, comme souvent.
Mathieu veut réagir. Mathieu, chauffeur poids lourd dans le Morbihan. Bonjour Mathieu.
Bonjour Gégé.
Qu'est-ce que t'en dis, Mathieu ?
Moi, je dis que c'est n'importe quoi. Moi, je suis une vraie tanche en orthographe. Je suis pas plus bête qu'un autre. D'accord, je sais me faire comprendre. Après, oui, comme dit Flora, par contre, moi, je fais l'effort, j'ai la motivation que quand j'écris des mails, je vais sur ChatGPT, je me fais corriger pour pas que ça soit non plus, voilà, une atrocité à lire. Mais voilà. Mais par contre, on va accorder beaucoup d'importance à l'orthographe. Mais par contre, les maths, ça, c'est pas un problème. Hein. Mais moi, à la fin du mois, quand s'il y a une erreur sur ma paye et que je sais compter s'il y a une erreur ou s'il n'y a pas une erreur. Et ça, les maths, on n'accorde pas autant d'importance. Et c'est pareil, moi je trouve ça que...
Mais vous êtes meilleur en calcul qu'en orthographe, quoi.
Ah, beaucoup plus. Beaucoup mieux. Je suis meilleur en maths, j'ai toujours appris à compter, ça a toujours été important, ça m'a toujours attiré. L'orthographe, ça a été compliqué, il y a des choses... Après, on veut intéresser les enfants à l'orthographe, et il va peut-être falloir changer l'imparfait, du subjonctif, du machin, des trucs qu'on n'utilise même pas dans la vie de tous les jours. Ça sert à quoi d'apprendre des choses qu'on n'utilisera pas dans la vie de tous les jours?
Ah, mais ça, c'est ce qu'on apprend toujours à l'école. Enfin, à l'école, on a appris plein de trucs, mais ça ne servait à rien. Mais voilà. C'est partie de l'éducation, de la culture.
Il y a un sujet qu'on a oublié. C'est la gestion de tous les 10, dyslexie, etc. Oui. On en parle de plus en plus, mais c'est des gens qui ont souffert en silence pendant très longtemps parce que ils ont vraiment pas la capacité, par exemple, de ne pas faire de fautes d'orthographe. Et aujourd'hui, on en parle, mais c'est que le début.
Mathieu, merci. On va conclure les GG aujourd'hui.
On va faire une dictée pour terminer.
Voilà. On a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que les recruteurs sont trop sévères sur l'orthographe? Vous mettez non.
Le mot et c'est le midi.
Non à 60. Ils ont raison, donc 74%.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
RMC, face aux grandes gueules.
Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oiseaux sauvages. Elles s'en allaient.
Nous sommes avec Géraud de la Tour et Pierre-Alexandre Mortemar de Boisse. Ils ont fondé en 2021, les deux copains, ils ont fondé le Canon français qui aujourd'hui se retrouve cible de toutes les critiques. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Alors,
bonjour.
Géraud, c'est le barbu. Pierre-Alexandre est à côté. Vous n'avez pas des têtes de nazis. Mais si j'en crois certains, vous organisez des fêtes de néo-nazis, c'est ça?
Mais c'est... il semblerait en effet, quand on écoute ou qu'on lit tout ce qui est écrit sur nous. Et c'est assez scandaleux, assez grave, parce que les conséquences sont aussi extrêmement graves. Voilà. Donc on dénonce.
Et quoi comme conséquence?
Là, en fait, il y a la campagne de harcèlement que nous subissons depuis des mois a été notamment reprise par des élus de la République qui font pourtant partie de l'arc républicain. Et donc on trouve ça extrêmement grave parce que derrière, en fait, c'est des centaines de messages de menaces de mort. C'est nos fournisseurs, les artistes qui se font menacer, attaquer. On leur intime l'ordre de ne pas travailler avec nous, sinon on va les empêcher de travailler derrière. On a récemment un boulanger par exemple qui reçoit des menaces tous les jours, des mauvaises notes sur sa page. Donc en fait, on s'attaque à son gagne-pain juste parce qu'il a fourni du pain à un événement.
Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le Canon français? D'ailleurs, ce soir, il y a une soirée à Montélimar. C'est quoi précisément?
C'est des banquets géants où tout le monde peut s'inscrire, tout le monde est le bienvenu, c'est des fêtes.
Ça coûte combien?
Ça coûte 80 euros. Il y a entrée, plat, fromage, dessert, boisson inclus. C'est vraiment des grandes fêtes.
C'est un banquet immense.
C'est un immense banquet. Alors au départ, on a commencé avec des petits banquets. Maintenant, avec notre succès, c'est devenu des très grands banquets.
On peut aller jusqu'à plus de 4000 personnes dans les plus grandes salles.
On boit, on mange, on chante.
On boit, on mange, on chante, on se retrouve, on danse. Il y a beaucoup de danse, beaucoup de musique. C'est pour ça qu'on parlait aussi des artistes qui sont pris à partie dans ce débat qui est devenu hystérique. Et nous, on aimerait que ça se calme, que ça soit un appel au calme.
Il y a un journaliste de France Inter qui était présent à Caen, c'est ce qu'il dit, lors d'un banquet du Canon français, pour réaliser un reportage en micro caché. Il dit qu'il a été témoin de gestes qui s'apparentent à des saluts nazis et des propos racistes à l'intérieur de ce banquet normand.
Alors, si ça s'apparente et qu'il n'en a pas la preuve, moi, je trouve ça très grave d'aller accuser une personne de ce genre de gestes. Nous, évidemment, on condamne tout ce qui ne respecte pas la loi et les chartes de la notre charte à nous. On en appelle évidemment au bon sens citoyen, etc. Mais les accusations qu'il a portées sur cette personne sont extrêmement graves, puisqu'il n'en a pas la preuve. Il aurait dû aller la confronter, aller lui demander quelle était la signification de son geste. Mais il me semble que les bras levés pendant un moment de liesse et de la Marseillaise, je pense que c'est plutôt un moment de danse et de fête ou de liesse que
donc ça veut dire que dans tous les stades il y aurait des saluts nazis.
Est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que le Canon français c'est de droite?
Non, le Canon français c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous, on le maintient, on ne bougera pas. Nous, on n'a pas du tout envie de politiser une fête populaire c'est dramatique de vouloir politiser du fromage, de la charcuterie, des produits du terroir, de la viande quelle qu'elle soit, c'est de la fête, c'est dramatique.
Est-ce que c'est un banquet de blancs patriotes français?
Non, nos billetteries, elles sont ouvertes à tous. N'importe qui peut s'inscrire. On a le droit de ne pas y aller, comme tout le monde a le droit d'y aller. Et on trouve ça vraiment dommage, en fait, qu'on vienne ajouter de la tension. On considère que la société est suffisamment tendue pour venir ajouter de la crispation, de venir imposer.
Si je regarde les photos, votre public, il est très blanc, il est bleu, blanc, rouge, il a du béret.
Il est franchouillard, quoi.
Il est franchouillard, mais ça, vous allez retrouver ça dans énormément de fêtes populaires.
Moi, c'est encore autorisé d'être blanc et franchouillard, pardon.
Non, mais c'est-à-dire que nous, on va aussi dans d'autres festivals, parce qu'on a aussi notre producteur qui en organise. Il y a plein de fêtes à la campagne où il y a une majorité de blancs. Je pense que réduire un événement à la couleur de peau des participants, c'est gravissime.
Ça nous intéresse pas, surtout. Ça nous intéresse pas. Les gens s'inscrivent, les gens qui viennent, ce sont les gens qui viennent.
Ah oui.
Ça s'arrête là. Je pense que c'est dommage vraiment de rentrer dans ce genre de considération, parce qu'encore une fois, on vient un peu imposer les débats politiques et idéologiques à des simples fêtes. Qui peuvent
plaire à tout le monde. C'est vous qui avez créé le Canon français, c'est ça ?
C'est ça.
Mais on parle beaucoup de Pierre-Édouard Sterrin, qui est souvent présenté comme étant un milliardaire ou un millionnaire ultra-conservateur, c'est le terme qui est utilisé par les médias, et qui aurait donc derrière plutôt un agenda politique. Il se servirait de ce Canon français qui le finance, et je sais pas, quelle est sa participation ?
En fait, il est rentré au capital, il a 30% des parts, et il est rentré pas en direct, il est rentré via un fonds d'investissement. Et un fonds d'investissement, c'est purement business. Il a son projet politique qui s'appelle Patrimoine Enraciné ou je sais plus quoi, mais c'est une autre entité qui n'a rien à voir avec le fonds avec lequel on travaille.
Vous avez des rapports avec lui ou pas?
Jamais, non,
on l'a jamais vu. Et puis en fait, ce qu'on aimerait que les gens comprennent bien, c'est que les patrons du Canon français, c'est nous. Personne, enfin le jour où quelqu'un viendra nous dire ce qu'il faut faire dans nos événements, ce jour n'est pas arrivé. Ils ont aucun droit de vote, aucun pouvoir d'ingérence en fait sur notre entreprise. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait des événements.
Voilà.
Eux, ça fait 1 an qu'ils sont rentrés dans notre capital. Ils vont probablement ressortir dans 3-4 ans. C'est le principe d'un fonds d'investissement. Et on a toujours fait nos événements comme on les fait aujourd'hui, comme on les faisait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est encore une fois un faux procès, mais on les collectionne, les faux procès.
Abel.
Hormis faux procès, donc c'est un mouvement que vous avez lancé au sortir du Covid. Alors est-ce que, parce que votre argument c'est beaucoup de dire que vous ne faites que de l'événementiel, chose qui est vraie en l'état, mais est-ce que vous vous considérez, on dirait juste comme des personnes qui comblent un besoin de se retrouver après une période Covid où on a été confiné, ou est-ce que vous assumez quand même aussi de faire la promotion d'une certaine France traditionnelle? Et c'est pas une injure de le dire, c'est pas péjoratif du tout. Est-ce que ce côté-là est assumé, une certaine tradition, une certaine image de la culture française?
Alors nous, on a le Canon français, c'est une création originale qui en effet vient chercher des inspirations aussi bien dans les fêtes de Bayonne que l'Oktoberfest de Munich. On aime le terroir, on aime les régions de France parce qu'elles sont magnifiques et qu'il y a des gens merveilleux qui font vivre ce terroir. Mais
la chanson française,
etc. Mais on se donne pas d'objectif si ce n'est de proposer des événements de qualité. On va manger des produits locaux. le seul peut-être but qu'on se donne, c'est de faire travailler les agriculteurs, les producteurs, etc. Donc
en local, voilà. Au maximum, nous on va aller chercher des producteurs qui sont pas loin de notre fête pour essayer de favoriser une espèce d'économie de circuit court. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de nos valeurs. Donc oui, il y a un attachement fort à la production française, aux agriculteurs, aux vignerons, qu'on soutient évidemment. Et là où on trouve que c'est très grave, c'est que maintenant les attaques, elles ne concernent plus uniquement nous, parce que nous on est quand même menacés de mort très régulièrement.
Vous-même?
Oui, depuis des mois. Là, on lit sur les réseaux sociaux, on va vous brûler au lance-flamme, on va vous faire une deranque. Donc c'est pour ça qu'on va vous faire une deranque.
C'est le nom du jeune qui a été tué à Lyon.
C'est ça.
Donc vous êtes assimilé.
On est assimilé comme
nationaliste, extrême droite, quoi.
Exactement. Et en face, c'est repris par des politiques de premier plan. Et nous, on trouve ça gravissime parce que et maintenant ils veulent menacer les artistes et on sait où ça va quand on menace.
Il y a des députés qui voudraient vous interdire. Il y a un sénateur, le sénateur socialiste Jean-Luc Fichet, qui l'a dit d'ailleurs cette semaine à l'Assemblée nationale. Il voudrait l'interdiction des banquets du Canon français.
C'est gravissime. Et donc des militants reprennent ça. En disant on va interdire les artistes de jouer dans le Canon français, on va interdire les boulangers de fournir le Canon français. Donc maintenant ils font des raids numériques, ils envoient des emails, ils menacent des personnes qui travaillent avec nous. Donc en fait c'est en train de prendre des
proportions énormes. Vous avez un service d'ordre le
soir? Ah oui, mais toujours.
Ce qu'on déplore aussi, c'est que en fait ça fait 5 ans qu'on fait des événements partout en France. On a réuni plus de 100 000 personnes dans nos événements. Et si c'était, comme on le lit dans la presse, des torrents de haine, des troubles à l'ordre public ou des réunions de néo-nazis, ça se saurait, on n'arriverait pas à revenir, on n'a aucune difficulté à revenir dans les villes où on a fait des événements. Et on déplore aussi que très peu de journalistes se sont dit, plutôt que de reprendre le récit de ceux qui nous attaquent, se sont dit, tiens, ils ont fait tel événement dans telle ville, on va appeler les maires, on va appeler les parcs expo, on va appeler les salles pour savoir comment se passent nos événements. Et voilà, donc ça
se passe bien, sauf que maintenant il y a pression sur les maires pour ne plus vous accueillir.
Oui. Ah oui, il y a des pressions sur tous les gens qui travaillent avec nous.
Et c'est extrêmement liberticide.
On leur demande de se positionner.
C'est pour ça que vous avez écrit au ministre de l'Intérieur, vous avez écrit une lettre ouverte à Laurent Nunez. Pour lui dire quoi, précisément?
Pour lui dire que le droit de réunion est un droit fondamental, quand même, parce que là, c'est la liberté d'entreprendre aussi. Nous, on est avant tout des entrepreneurs, faut pas oublier. Que c'est un droit fondamental, que la haine et le harcèlement sont évidemment condamnables et que nous, on en subit maintenant depuis des mois, depuis que des députés LFI nous ont mis une cible sur nous. Ça a excité des groupuscules extrêmement violents et nous, ce qu'on a peur, c'est que ça commence à exciter d'autres groupuscules en face. Enfin, en fait, ça nous panique. Et on demande à...
Vous avez peur qu'un soir, un de vos banquiers soit infiltré?
Oui, c'est sûr que c'est une crainte, évidemment.
Donc vous cristallisez en fait la lutte entre les groupuscules d'extrême gauche et ceux d'extrême droite.
Ça devient le champ de bataille d'une bataille politique, alors que ce sont des simples faits. Et encore une fois, on trouve ça extrêmement délétère. Juste avant l'émission, j'ai une dame qui m'a appelé parce qu'elle a lu un article et qui était à un autre événement en Champagne il y a 2 semaines. Elle était outrée de lire ça parce qu'en fait, tous ces gens, les milliers de personnes qui sont venues dans nos événements, ils se sentent insultés, traînés dans les boues. Et du coup, ça crée aussi un sentiment d'injustice et qui est extrêmement délétère pour tout le monde en venant exciter en fait tous les extrêmes de ce pays qui se servent du Canon français pour en faire un champ de bataille idéologique et politique.
Antoine Dierce, Fatima Hitbounoua ensuite. Antoine,
On vous sent fatigué et inquiet. On vous sent vraiment touché par la situation. Et effectivement, je trouve ça terrible. On aurait envie de vous dire de rester sur bravo pour la création d'entreprises, de jeunes entrepreneurs qui ont réussi, c'est sympa, etc. Et il y a tout ce truc qui vous tombe sur le coin de la figure. Et donc, franchement, je pense que c'est injuste.
Nous, on le vit de manière injuste. Comme ça. Voilà. Nous, on est persuadés que c'est injuste.
C'est révoltant d'injustice.
Et je vais vous dire, et là, vous ne faites pas de politique, évidemment, mais c'est ma lecture de chroniqueur, je pense qu'il y a une espèce de racisme social autorisé. Il est autorisé de vous taper dessus, il est autorisé de dire que ceux qui vont dans ces banquets-là seraient des méchants, etc. Et que notre société tolère ça. On devrait tous réagir à gauche, à droite, et avoir des mots d'apaisement en disant mais chacun fait ce qu'il veut. On a encore le droit de faire la fête comme on veut. On a encore le droit d'aller où on veut. Et je vois une dérive assez grave de notre société où on est pointé du doigt pour avoir fait une fête franchouillarde, pour avoir chanté sur des chansons classiques du répertoire français. Et je pense que tout le monde devrait réagir, même ceux qui n'aiment pas particulièrement les fêtes que vous proposez, parce que c'est le début de la fin de la liberté de chacun.
Ça va même plus loin, puisque le recteur de la mosquée vous reproche de servir un repas qui exclut de fait les musulmans, puisqu'on y sert du porc.
Bah, quand je vous disais qu'on collectionne les faux procès, c'est encore une fois, bon, déjà, on a le droit de manger ce qu'on veut. Nous, ce sont des grands événements, donc on n'est pas un restaurant, on ne fait pas des menus uniques, c'est des plateaux à partager, on sert 4000 personnes. Donc on n'a pas de menu individuel, mais c'est encore un faux procès, parce qu'en fait on sert autant de cochons qu'on a servi de viande, de bœuf pardon, on a fait de l'autruche, on a fait de l'agneau, du canard, de la pintade, donc encore une fois...
Donc à la limite, ceux qui peuvent se plaindre, c'est les végétariens surtout.
On en a qui viennent dans les banquets, ils ont le droit de venir, mais tout le monde est bienvenu, en fait, limite nous on s'adapte, nous avant tout on est quand même des entrepreneurs, donc si on commence à segmenter notre business en disant on exclut telle personne, on va avoir moins de monde. Donc même d'un point de vue économique, c'est pas intéressant pour nous de commencer à réduire
Du coup, vous répondez aux critiques du recteur de la mosquée de Paris qu'on va écouter justement.
Le 18 avril, 4000 convives autour d'un cochon à la broche, un banquet présenté comme la célébration des valeurs françaises, en excluant symboliquement ceux qui ne ressemblent pas, pour rappeler aux autres qu'ici en France, ils ne sont pas chez eux.
Alors, qu'est-ce que vous répondez au recteur ?
En fait, c'est comme à toutes les personnes, on comprend pas. Est-ce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire que de venir politiser des fêtes, de venir, encore une fois, ajouter de la crispation sur des simples fêtes, certes, qui rencontrent un franc succès, mais
Parce que si on suit la logique du recteur, on est dans une bataille identitaire. Il vous reproche finalement de défendre l'identité française, qui ne serait uniquement que blanche, un béret, mangeant de la viande. Voilà. Et l'identité française, c'est aussi des Français de confession musulmane.
Nous ne sommes pas un porte-étendard d'une identité française, parce que l'identité française, comme vous l'avez dit, elle est extrêmement large. La culture française, elle est extrêmement large. On fait partie de cette culture, c'est évident. Hein, c'est des événements culturels. Donc, on n'a pas du tout de combat là-dessus.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens ? Pourquoi ils viennent chez vous ?
Parce que déjà, on s'éclate dans nos événements. Ça, on oublie quand même souvent de le dire. Mais oui, c'est la grande fête. On mange, on a des super artistes qui mettent le feu à chaque fois dans nos événements. Et puis aussi, ils y retrouvent aussi... des événements intergénérationnels. On peut y aller avec ses parents, ses grands-parents.
C'est une sorte de convivialité qu'on retrouve, qui existait beaucoup à la campagne avant, qui peut-être existe moins. Des banquets, des foires.
Exactement. Astérix, il y a l'imaginaire d'Astérix qui joue évidemment beaucoup là-dedans. Ça, c'est sûr et certain.
Printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara.
Il paraît que tous les banquiers du canon français, puisqu'on a les deux fondateurs qui sont avec nous, ça se termine avec les lacs du Connemara, c'est ça ou...
Très souvent.
C'est quoi les chansons stars vedettes du canon?
Les yeux d'Émilie, un peu de tout.
Le chasseur de Michel Delpech.
Maître Gims aussi.
Oui, là, ça repose avec Vianney. Celle-là, elle marche très très bien. Toute la variété française.
Des choses qui peuvent se chanter en groupe.
Voilà,
en fait.
Tout le monde peut chanter. Tout le monde connaît.
Tout le monde connaît le refrain.
Giraud de la Tour, Pierre-Alexandre Mortemart de Boise. Voilà les deux fondateurs du canon français. Fatima Hidbounois.
Moi, je suis toujours étonnée des polémiques 2026. Et j'ai l'impression qu'avec vous, il y a un peu. On assiste à la même chose que l'effet croustipoulet. Vous voyez, avec Krusty Poulet, il y a eu cette polémique où finalement, ça a fait énormément de pub à Krusty Poulet. Et vous, j'ai entendu parler des banquets par la polémique. J'aurais jamais entendu parler des banquets sans cette polémique-là. Donc, finalement, il y a un effet stressant un peu nouveau. Et c'est pas la rumeur, mais c'est le côté, la critique qui finalement vous fait de la pub. Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous demandez dans votre charte, justement ? Vous dites qu'il y a une charte et tout ça.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ? Et après, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit le recteur de la mosquée.
Vas-y, au contraire, bien sûr.
Moi, j'ai entendu le recteur de la mosquée, mais écoutez, autour de moi, j'ai aucune personne musulmane qui était en train de dire « Oh, je me suis sentie exclue, j'aurais tellement voulu être, si vous voulez aller dans un banquet et même ne pas manger la viande, on peut aussi y être et ne pas manger de porc ». Donc, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'on fait des symboles un peu de tout et qu'on est, la population est un peu pris en otage de ça.
C'est fait instrumentaliser, quoi.
C'est un peu du même ordre que l'expression dans l'émission de France 2, cette expression, attention, il ne faut pas dire l'expression le chemin de croix, parce que les auditeurs vont se sentir exclus, alors que les auditeurs musulmans ou autres, ou juifs, n'ont rien demandé, ne sont pas en train d'être choqués par ça. Donc écoutez, toute cette polémique...
Des polémiques qui n'en sont pas.
Non, mais c'est des polémiques qui en sont pour les médias et pour les politiques, mais pour les gens sur place, je ne suis pas sûre.
Revenons à la première question, la question initiale, votre charte.
Et votre charte, qu'est-ce que vous dites pour assurer la sécurité et éviter les débordements racistes, par exemple?
Notre charte, en fait, elle rappelle juste les règles basiques de vivre ensemble et de bonne conduite. Donc de respecter le matériel, de se respecter les uns les autres, de ne pas s'insulter. Il y a de l'alcool évidemment, donc faut être vigilant. C'est pour ça qu'on a un service de sécurité. Évidemment interdit au racisme, de pas venir avec des trucs de militants politiques quels qu'ils soient. Donc nous, si on le voit, on leur dit non. On leur confisque à l'entrée et ils leur partent avec si jamais ils ont un truc, un machin. Mais globalement, c'est très rare que ça arrive. Jamais, quasiment jamais en fait, parce que les gens globalement, 99% des participants, ils sont extrêmement respectueux. Ils viennent pour faire la fête, pour passer un bon moment. Et en fait, parfois même notre service de sécurité, ils circulent dans les allées, ils indiquent où sont les toilettes, quoi.
Est-ce que vous craignez pour la survie de ce que vous avez réussi? Parce que c'est avant tout une réussite française, le canon français. Vous avez lancé quelque chose qui marche très bien, qui répondait à une demande, effectivement, de gens qui veulent se retrouver faire la fête et autres. Mais est-ce que vous vous dites, face aux menaces de mort que vous recevez, aux appels au boycott, à des sénateurs, des députés qui disent il faut interdire, la pression qui s'exerce? Alors pour l'instant, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, vous a répondu, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, mais je reste vigilant. Donc on voit même que le ministre de l'Intérieur commence à être un peu
il a précisé qu'il restait vigilant parce qu'il y avait des manifestations qui s'organisaient contre nos événements.
Mais est-ce que vous craignez pour votre entreprise?
Ça inquiète évidemment, même si on a un soutien populaire énorme. Donc là, on parlait de nos prestataires qui nous font menacer, mais on reçoit que des messages de soutien. Les gens, en fait, ça fait 5 ans qu'on fait des événements. Les gens nous connaissent. Si on était des nazis, ça saurait. Enfin, je veux dire, on a fait deux banquets au Salon de l'Agriculture. Les organisateurs du Salon de l'Agriculture sont néo-nazis, peut-être. En fait, les gens nous connaissent, les vrais gens, le monde réel nous connaît.
Donc, heureusement, votre chance, c'est le soutien de tous ceux qui participent au canon.
Exactement. Et on demande aussi à tous les maires qui reçoivent beaucoup de menaces de ne pas plier à cette logique libérale.
Attends, juste une chose, parce que vous voyez, je regardais en même temps. Vous avez un banquet qui est prévu à Parquet Mêlé, je crois.
Oui, Parquet Mêlé, oui.
Parquet Mêlé, pardon. Le sénateur vient d'interpeller le préfet d'Indre-et-Loire. Vous le saviez?
Alors que c'est la deuxième année.
Non, à l'instant, le sénateur local, puisque vous devez faire votre banquet, le sénateur interpelle le préfet en lui demandant d'être vigilant. J'essaie de trouver l'article.
Comment il s'appelle?
C'est le sénateur Roiron.
Voilà. Alors que, vous voyez, c'est la deuxième année que nous faisons un événement à Parcémélé. Et il s'est tous extrêmement bien passé. Il y a des villes, ça fait 3 fois qu'on revient. Donc en fait, ce sont ces personnes-là qui reprennent un peu la campagne de harcèlement que nous subissons, extrêmement violente, qui viennent en fait ajouter à cette crispation. En fait, ils reprennent cette campagne, encore une fois, vraiment ultra violente.
Ils ont fait de vous les épouvantails pour justifier.
C'est ça, je ne sais pas quel est leur but.
Ça permet aux sénateurs de se faire un coup de pub.
Pense que c'est malheureux d'en arriver là, mais peut-être seriez-vous contraint peut-être de refaire un communiqué, une communication,
mais c'est même pas à eux de se justifier. Ils ont rien fait.
Déjà, j'ai commencé par dire que c'était malheureux, mais je pense qu'aussi la présence de Monsieur Sterrin, qui est minoritaire, en fait, actionnaire minoritaire, on le présente comme s'il était limite le propriétaire, mais c'est quand même quelqu'un de sulfureux dans son genre, qui a pu dire qu'il est plus à droite que l'extrême droite. Ne pensez-vous pas que, au-delà de ce que vous êtes vous, son image à lui a un impact négatif et plus crispé?
On est obligé de le constater, en effet, parce qu'on fait beaucoup attaquer là-dessus. Mais en fait, on a l'impression d'un peu de crier dans le désert, parce qu'on s'évertue à expliquer le fonctionnement de cet actionnariat. Et c'est qui est très rarement repris dans la presse, etc. On a l'impression que ça les intéresse pas, et plutôt que de reprendre ce qu'on essaie d'expliquer, le fait que nous on se sent un peu insulté parce qu'on est très fier de notre réussite, on n'a jamais demandé d'argent.
C'est une vraie réussite commerciale, quoi, en plus.
On est parti de rien.
Vous êtes parti en investissant combien tous les deux?
1000 euros chacun.
1000 euros. Et aujourd'hui, votre boîte, elle vaut
Beaucoup d'argent.
Beaucoup.
Beaucoup d'argent. Voilà. Et c'est pour ça, s'il y a des investisseurs qui veulent racheter les parts de M. Sterrin, ils peuvent discuter avec lui.
Voilà, l'appel est lancé.
Voilà,
ah, oui, bien sûr, n'hésitez pas.
Nous, si vous voulez, on est ouvert. Enfin, voilà, on est ouvert à d'autres investisseurs. Voilà, c'est.
Vous savez qu'avec ce fonds d'investissement, les seuls échanges qu'on a eus, c'était quelles sont vos charges, quelles sont vos marges, quels sont vos chiffres d'affaires. Il n'y a jamais eu une seule début de discussion politique. C'est pour ça que c'est, encore une fois, vraiment.
Alors, attends, on va aller dans l'Indre, du côté de Châteauroux. Bonjour, Boris.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes pompier. Vous connaissez le banquier ou pas, alors, le canon français?
Oui, je connais. Donc, du coup, on est une bande de 9 collègues et on suit le canon français depuis Bourges. On les a découverts, en fait. Et du coup, je voulais quand même témoigner parce que après tout ce qu'on écoute avec nos collègues, là, on est sur la route, on vous écoute, les grandes gueules. Voilà, on trouve pas ça juste, en fait.
Racontez-nous ce qui s'y passe alors, puisque vous participez au canon.
En fait, le canon français, c'est la culture française, il n'y a pas de souci. En fait, ce qu'il faut mettre en avant, c'est surtout en fait, qu'il faut marcher tout ce qui est les agriculteurs, les commerçants locaux et autres, donc, dont les artistes aussi. Donc en fait, il n'y a aucun souci, quoi.
Et vous allez y aller ce soir à Montélimar?
Alors on est en route, là, pour Montélimar, on s'est arrêté sur l'aire de repos pour vous parler.
Quand il y a un journaliste qui dit, c'est journaliste de France Inter, qui à Caen a vu des gestes qui s'apparentent à des saluts nazis, des propos racistes, vous l'avez constaté ça vous aussi?
Moi aussi, bon, j'ai jamais vu ça, donc à part des gens qui sont contents d'être là, qui chantent, qui montent sur les bancs, qui sont engueulés parce qu'il ne faut pas monter sur les bancs, mais sinon le reste...
Mais pourquoi
donc vous êtes là pour faire la fête, si je comprends bien?
On est là pour faire la fête. Si on fait pas... On fait pas 600 km, c'est pour faire la fête.
Ah oui.
Là, on va faire le banquet vendredi. Et après, nous, on va visiter à chaque fois la région où on se trouve, quoi.
Alors, Boris, on a Xavier qui veut intervenir, qui est du côté de l'Allier. Bonjour, Boris. Xavier, pardon.
Bonjour à tous.
Vous avez été à Béziers, vous?
Ouais. Je vais essayer d'être rapide. Moi, j'habite en ruralité. On est une bande de potes. On adore les fêtes de village. Moi, j'ai grandi dans un village de 300 habitants. Et pour les 50 ans d'un ami, on lui a offert un banquet. On savait pas ce que c'était. On est allé à Béziers. Et là, franchement, j'ai été choqué, quoi. Moi qui, déjà à l'entrée, les services d'ordre, il n'y a pas quelqu'un de racisé, parce que normalement, dans toutes les grandes manifs, on voit des gens racisés. Bon, bref.
D'ailleurs, de noir.
Ça veut dire quoi, racisé? Parce que c'est insupportable. Voilà.
Ouais, bon, vous pouvez dire de noir, d'arabe, de personnes d'origine asiatique, y a pas de problème.
Tout à fait. Du coup, on rentre. Moi, j'ai fait les fêtes de Bayonne, comme je vous dis, la fête de la bière à Munich, comme on dit au pays, moi au village, des fêtes intelligentes. J'ai jamais écouté tant de fois la Marseillaise. C'était un peu bizarre, un peu. Moi, c'était ça m'a surpris. Bon, bref, je suis patriote. Là, je reviens de les commémorations. Moi, il y a pas de souci. Mais dans ce lieu, ça me paraissait bizarre. Après, il y a beaucoup de gens, le foulard des fêtes de Bayonne. Au lieu de le porter autour du cou, il le porte autour du bras. Moi, j'ai jamais vu ça dans les fêtes de Bayonne. Autre point.
Il y a des cons partout.
Oui, non, mais je dis pas. Moi, ma position, c'est pas d'interdire, c'est d'informer les gens pour que des gens comme moi qui ne sont pas dans cette philosophie n'y aillent pas. Parce que moi, j'étais très mal à l'aise et puis j'ai pas fini le truc, quoi. Donc voilà. Après, pour revenir, j'ai entendu des choses aussi qui m'ont déplu, bien sûr.
Par exemple.
Il y a une anecdote. Alors, je vais vous dire la plus rigolote. On est tous sur les mêmes tables, donc on discute un peu avec ceux de droite, gauche. Bon, c'est vrai que là-dessus, c'est ils essaient que ça soit convivial. Et il y a le collègue d'à côté qui dit moi, le jour avec Momo, et là. Un grand blanc, un grand silence. Et la personne s'est sentie obligée de préciser, mais c'est Morgane, je voulais dire. Vous voyez, il y a. Alors après, voilà. Moi, je viens d'un petit village. Pareil, tous les repas autour du cochon. Moi, je veux bien que ça soit. Mais moi, je viens d'un petit village. Les fêtes de village, que ça soit des amicales laïques, les foot, les pompiers, tout ça. Chez nous, globalement, c'est des méchouis. C'est des méchouis, c'est du mouton.
Chacun peut faire ce qu'il veut aussi.
Mais on peut tourner. Moi, je suis le premier à défendre le terroir français, je vous le promets. Je suis écolo, moi, j'ai pas peur de le dire, je suis de gauche.
Moi, je pense que vous êtes dans une opposition idéologique. J'ai pas entendu de choses très probantes. Non, mais je vous laisse parler. Mais c'est pas très précis ce que vous décrivez.
Allez-y.
Je finis. Donc, moi, je défends mon terroir. Des fêtes de village, je peux vous dire. J'en ai fait depuis l'âge de 15 ans, je suis dans les fêtes de village, dans ma rue. C'est à base souvent de moutons. Moi, qu'on défend le terroir, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi quand on va en Bretagne, on fait
ça à base de moutons?
C'était comme ça chez moi. Après, chez vous, c'est peut-être d'une autre manière. génial. Laissez-moi.
Alors attendez, justement, il y a des petites critiques là qui ont été mises par Xavier. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre?
On a déjà fait d'autres produits que le cochon. On a déjà répondu là-dessus tout à l'heure. On était à Agen l'autre jour. On a fait de l'agneau de 7 heures avec des magrets de canard et des cœurs de canard braisés au bras zéro. On a fait des cuisses de grenouilles. Enfin, on a fait plein de menus différents. Donc,
Puis les témoignages qu'on entend. Encore une fois, nous on a reçu plus de 100 000 personnes dans nos événements. Parmi les 100 000 personnes, on les connaît pas tous, mais on a beaucoup d'autres témoignages, donc qui vont totalement à l'inverse, où il y a eu des belles rencontres, des choses ultra positives, etc. Non, donc
rapidement.
Oui, dernier mot, parce qu'on parle beaucoup là, le cochon revient. Vous savez, c'est amusant. On dirait que le cochon c'est la kryptonite du musulman. Que s'il y a un cochon dans la pièce, à la limite on va dire Peppa Pig, je vais faire une attaque cardiaque ou porciner. Les musulmans ne mangent pas de porc, mais d'autres gens mangent du porc. Et quel est le problème?
Non, mais surtout qu'on n'a jamais été attaqué par les musulmans.
Non, mais c'est ça. Moi, j'ai jamais entendu autour de moi des gens en train de se dire « Oh là là, il faut les empêcher de manger du porc, car je me sens exclu. » Mais manger du porc, si vous avez envie de manger du porc, je comprends même pas le débat.
Dans tous les cas, merci à Xavier.
Et regardez Peppa Pig.
Boris, d'être passé par le 32-16.
Mais l'appel est lancé. Ceux qui veulent reprendre les 30% de M. Sterrin, je vais prendre.
Et puis on fait aussi un appel à tous les représentants, notamment le ministre de l'Intérieur et puis tous les responsables politiques locaux et nationaux
un appel au calme,
surtout on demande au ministre de nous défendre nos événements parce qu'encore une fois on se fait vraiment attaquer, donc on demande
à la fois une protection et il faut que la tension redescende.
Et n'oubliez pas que avant qu'on se fasse attaquer par ces personnes qui sont extrémistes et qui sont sans foi ni loi, honnêtement tout se passait très bien, on parlait pas de nous et pourtant on faisait autant d'événements et on rassemblait autant de monde.
Donc merci d'être passé, Giro de la Tour et Pierre Alexandre Mortemar de Bois.
RMC jusqu'à midi, le meilleur des grandes gueules.